Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la troisième saison des Héros anonymes. Bonjour, chers auditeurs, bienvenue à cette émission de notre saison d'automne des Héros anonymes. Encore une fois, nous vous proposons cette semaine deux entretiens avec des gens dont on souhaite mettre en lumière le dévouement extraordinaire. Cette fois-ci, toutefois, petit changement au programme, car ce ne sont pas des organismes communautaires que l'on reçoit à l'antenne, mais bien une entreprise privée, la Maison chez Lise, et un super bénévole catégorie platine, Jason Rivet, avec plus de 10 000 heures de bénévolat à son actif. Si vous êtes un ou une fidèle de l'émission, vous savez que je demande à chacun de nos invités s'ils bénéficient de l'aide des bénévoles, car c'est entre autres grâce à eux si les organismes communautaires peuvent offrir autant de services aux gens qui en ont besoin. Notre premier invité cette semaine, Jason Rivet, a débuté sa carrière de bénévole alors qu'il était étudiant au secondaire. Et depuis, ma foi, son CV de 7 pages déborde d'exemples de bénévolat auxquels il a consacré beaucoup de temps depuis toutes ces années, des engagements pour lesquels il s'est mérité plusieurs distinctions, dont le prix du bénévolat du Canada, catégorie « Leader émergent ». En seconde partie, nous recevrons Lise Bissonnette, fondatrice et doyenne de la maison de chambre chez Lise il y a près de 45 ans. Chez Lise accueille les plus marginalisés d'entre nous, ceux qui n'arrivent pas à se trouver de logement parce qu'ils ont de sérieux enjeux de santé mentale. Lise Bissonnette, aussi appelée Maman Lise, nous racontera pourquoi et comment une entreprise privée peut se comporter comme un organisme sans but lucratif. Ce sera sûrement très intéressant et nous la recevrons accompagnée de Julie Saint-Jean, éducatrice spécialisée, une entrevue que vous pourrez également regarder sur la chaîne YouTube de Canal M. Une courte pause et on accueille Jason Rivet, notre super bénévole. À la lecture des nombreux prix obtenus par Jason Rivet pour son engagement social, j'avoue que j'ai été franchement impressionnée par ce bénévole catégorie platine. Prix bénévolat du Canada, catégorie leader émergent, prix hommage bénévolat Québec, médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, ce ne sont que trois distinctions parmi quoi? Près d'une bonne vingtaine. Et c'est que Jason Rivet, depuis ses études secondaires, a accumulé plus de 10 000 heures de bénévolat. Bonjour, Jason.
Bonjour.
Comment on en arrive à accumuler 10 000 heures de bénévolat?
Ben, je vous dirais que c'est simplement la vie qui apporte ce nombre d'heures-là parce que on apprécie faire du bénévolat, on s'implique dans des causes qui nous tiennent à cœur. Et bien là, c'est le bras dans le tordeur, comme on dit. Donc, on commence.
On continue.
Effectivement, on se dit, on va aider un peu, on va soutenir une cause qui nous tient à cœur. On est appelé par un ami ou une amie à venir soutenir une cause. Puis 10 ans plus tard, t'es encore là. Puis la personne qui t'a amené n'est plus là, mais toi, t'es encore là. Donc, on accumule des heures au fil du temps.
Et on va voir un peu plus tard les avantages de faire du bénévolat. C'est intéressant de vous recevoir, Jason, parce que dans tous les entretiens qu'on fait avec des héros anonymes qui sont souvent soit des fondateurs ou des représentants d'organismes sans but lucratif, chaque fois je pose la question « Avez-vous des bénévoles? » Et on s'aperçoit que sans bénévoles, c'est très difficile pour un organisme communautaire d'y arriver avec simplement le financement qui est accordé. Alors, au nom de tous les héros anonymes que l'on reçoit depuis quatre saisons, merci beaucoup.
mais ça fait plaisir. Puis je l'avais mentionné et je le rementionne encore. Le bénévolat, c'est oui un enjeu personnel parce que c'est moi qui ai fait mon bénévolat, mais on a du plaisir à faire ce qu'on fait parce qu'on a d'autres personnes autour de soi. Et en fait, moi, je tiens toujours à remercier les collaborateurs, les gens avec qui je fais du bénévolat, avec qui je m'implique, parce que sans le plaisir que j'ai de travailler avec ces personnes-là au quotidien, je le ferais pas encore aujourd'hui. Donc, c'est toujours important. Le bénévolat, oui, c'est un engagement personnel, mais c'est un engagement pour la communauté puis par la communauté aussi.
Ah ben c'est sûr que si on n'est pas payé, puis en plus, on s'amuse pas.
Non, effectivement, on reste pas longtemps.
C'est ça. Mais il y a eu une origine à tout ça. Donc, ce que je comprends, c'est que ça a commencé au secondaire, votre engagement?
Oui, mais en fait, j'ai commencé mon engagement bénévole dans le comité environnement de mon école secondaire, l'Académie Antoine Manceau à Joliette. Et j'étais sur le comité environnement comme président. On avait le but de faire la promotion des saines habitudes, promouvoir le recyclage, promouvoir le compost. Donc, on avait certaines tâches comme ça. Et ensuite, ben, de fil en aiguille, donc j'étais dans un village de 1500 habitants à Sainte-Marie-Salomé à l'époque. Et C'était dans la Naudière, près de Joliette. Et en fait, la bibliothèque ne pouvait pas fonctionner sans bénévoles. Il n'y avait pas assez de fonds à la municipalité pour allouer des employés. Et en fait, j'étais un utilisateur assidu de la bibliothèque. Et ben pour moi, c'était important de faire vivre cette organisation-là que j'appréciais en m'impliquant au final dans sa mission. Et là, de fil en aiguille, ben, c'est aussi les associations étudiantes pour justement offrir des services aux étudiants. Et ensuite, ben, j'ai été approché par d'autres organisations et j'ai aussi développé un fort intérêt pour l'économie sociale et les coopératives. Parce que souvent, on ne le voit pas, on voit des grandes coopératives, par exemple le mouvement Desjardins ou des choses comme ça. Mais à la base, c'est des gens qui s'impliquent bénévolement. Ce sont des administrateurs sur les conseils d'administration, ce sont des gens qui représentent les membres en tant qu'élus, qui permettent justement de faire valoir l'intérêt des membres dans les structures, qui permettent justement de répondre aux besoins des membres en ayant des gens qui les représentent. Et donc, je me suis impliqué à ma Caisse des Jardins, je suis encore sur le conseil d'administration de la coopérative en milieu scolaire Coopsco Trois-Rivières, où je suis vice-président. Je suis aussi impliqué dans d'autres organisations du mouvement coopératif. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, l'aspect aussi justement d'implication bénévole dans ces mouvements-là, puis l'impact que ça a.
Oui, j'aimerais ça un peu plus tard qu'on regarde un petit peu les différents modèles qu'il y a dans l'engagement social parce que c'est une entrevue un peu particulière parce que d'habitude, on parle vraiment avec un représentant d'un organisme et on trouvait important aussi de parler de la force des bénévoles grâce à qui les organismes peuvent rouler. Mais ce que ça amène pour nous, parce que on se dit peut-être que cette émission-là sert à déclencher des passions et donne envie. Tu sais, souvent, on va lancer des appels en ondes si la cause dont on vous parle à l'antenne vous
J'ai
touche.
J'ai une liste de causes. Si vous désirez, je pourrais vous faire une belle liste d'épicerie.
Excellent, parce que si vous avez des idées d'autres héros anonyme qu'on pourrait recevoir à ce micro, ce serait un grand plaisir. Et c'est sûr qu'on se demande, là, avec un tel parcours, est-ce que c'était une habitude dans votre famille de faire du bénévolat ou d'être engagé socialement?
Bien, en fait, du côté de la famille de mon père, c'était des gens qui s'impliquaient au niveau municipal. Donc, mon grand-père a été maire, mon oncle a été maire. Mon autre oncle a été conseiller municipal. C'est des gens qui... On vient de passer la fête nationale au moment de l'enregistrement. Et en fait, c'est des gens qui s'impliquaient dans l'organisation des festivités au niveau de la municipalité, des gens qui faisaient vivre les municipalités. Donc, c'est des beaux modèles que j'ai eus dans ma famille, mais même au niveau de ma mère, c'est quelqu'un qui s'est engagé aussi au fil de l'eau. Donc, par exemple, à l'école primaire de ma communauté, quand on était au primaire, secondaire, etc. Donc, pour elle, c'était un lien avec qu'est-ce qu'elle pouvait apporter mm-hmm. à ses enfants à travers ce bénévolat-là qui était important pour elle.
Bien, c'est ça, je regardais dans votre CV plusieurs des implications, mais je nous en ai trouvé une commune, la simulation de conseiller municipal au Jeune Conseil de oui. Montréal. Bien, je trouve ça important parce que ça nous permet de comprendre comment fonctionnent les ressorts de la démocratie, les endroits où des décisions se prennent. Et j'ai vu que vous l'avez fait, les simulations un peu à tous les paliers gouvernementaux pour qu'on comprenne comme citoyen comment les décisions sont prises et comment on peut les impacter, ajouter notre voix à la discussion.
Oui, en fait, c'est un engagement bénévole qui est très important pour moi, justement. Les simulations parlementaires, mm-hmm. notamment, donc pour que les auditeurs comprennent, oui. donc ça permet de simuler des instances gouvernementales, notamment, par exemple, le Parlement à Québec ou encore à Ottawa. J'ai aussi participé à la simulation du Parlement européen, mm-hmm. donc pour l'Europe. Et en fait, ça permet à des jeunes, notamment, de simuler des rôles de députés, de ministres, etc. Et de pouvoir apprendre ces rôles-là, mais aussi de promouvoir la démocratie et l'éducation à la citoyenneté. Donc, je m'y suis impliqué avec beaucoup de plaisir parce que, justement, bien, ça permet à une nouvelle génération oui. de mieux comprendre comment nos instances fonctionnent et comment ils peuvent influer sur ces instances-là. Puis, justement, bien, on parlait de leadership. Mais ça permet aussi à des jeunes leaders de dire, ben moi, j'ai peut-être des idées, j'ai mm-hmm. peut-être une conception de la vie qui est importante à faire valoir dans nos parlements, dans nos conseils municipaux, dans les lieux décisionnels, et de permettre à ces jeunes-là d'avoir accès à des apprentissages mm-hmm. qui leur permettront peut-être un jour de se présenter en politique. Ben pour moi, c'est très important, puis c'est quelque chose qui me fait beaucoup vibrer.
Est-ce qu'on verra un jour Jason Rivet en politique?
Je vais avoir une réponse de politicien. Je ne l'exclus pas, mais ce n'est pas pour l'instant dans les projets à court terme.
Dans les projets à court terme, là, on comprend là, que vous êtes curieux. Bon, on l'a vu avec votre passion pour la bibliothèque. Donc, baccalauréat, administration, en histoire également, maîtrise en administration, et vous êtes actuellement au doctorat.
Exact. Donc, doctorat à HEC Montréal en management sur un sujet relié aux coopératives, qui est ma passion.
Donc, expliquez-nous un petit peu la différence entre les organismes communautaires, les coopératives, les mutuelles, juste pour qu'on comprenne bien les modèles de prise de décision.
Oui, c'est très simple, en fait. Le modèle des OBNL et du mouvement communautaire, c'est des organismes qui vivent pour une mission. Donc, ils ont des membres, mais les membres sont souvent des utilisateurs de la mission ou des collaborateurs, et il n'y a pas forcément de volet marchand à un OBNL ou à un organisme communautaire. Parfois, il y en a. C'est pas forcément le cas pour l'ensemble. Et souvent, ils fonctionnent par des dons ou des contributions gouvernementales. Mm-hmm. Une coopérative a de facto un enjeu soit de travail, de production ou de consommation qui est relié à une offre marchande. Et donc, c'est relié à une production économique. Et donc, il y a un aspect social, il y a un aspect associatif, mais qui conjugue aussi avec un aspect économique. Et là où les coopératives mutualisent un service ou des biens, les mutuelles mutualisent des risques. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve les mutuelles plutôt dans l'assurance au Québec, notamment avec, par exemple, Promutuel, Beneva, etc. Donc, c'est des mouvements mutualistes qui mutualisent des risques au niveau des assurances.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Bien, en fait, c'est de dire, bien, moi, j'ai un besoin particulier. Donc, par exemple, ça peut être de consommer des livres pour mes études, si on prend le cas des coopératives en milieu scolaire. Et donc, par exemple, le mouvement des coopératives en milieu scolaire, dans les années 1940-1950, les étudiants n'avaient même pas accès aux livres pour leurs cours. Parce que, justement, c'est des livres qui venaient des États-Unis, qui venaient de l'Europe, et donc qui n'avaient pas accès facilement à cause de la logistique de l'époque qui était plus complexe. Et ça faisait en sorte que même les librairies ne pouvaient pas suffire à cette demande-là particulière des étudiants. Et donc, les étudiants se sont regroupés ensemble. Ils ont dit, ben nous, on va faire du bénévolat ensemble. On va faire en sorte de créer des coopératives qui vont nous doter des outils pour nos études. Et donc, ben, c'est là où il y avait des étudiants qui ont fondé des coopératives en milieu scolaire. C'est les étudiants eux-mêmes qui commandaient les livres des éditeurs étrangers, qui s'assuraient d'avoir justement des services dans les institutions. Et bien, de fil en aiguille, c'est des organisations qui ont grandi. Donc, il y a des employés qui se sont mis aussi de la partie, mais ça reste aussi avec un grand ensemble de bénévoles qui, encore aujourd'hui, représentent les membres. Mais au quotidien, on a des coopératives de plus petite taille qui fonctionnent encore en grande partie avec du bénévolat et qui, justement, répondent à des besoins.
Donc, on a parlé de services économiques. Et quelle subtilité on amènerait avec la notion d'économie sociale?
Bien, en fait, l'économie sociale regroupe principalement justement les mutuelles, les coopératives et les OBNL avec une activité économique. Donc, c'est ça le grand chapeau de l'économie sociale. Le mouvement communautaire est un peu le cousin germain de ça parce que justement, bien, l'économie sociale dit « ben nous, on représente des organisations qui font une majorité de leur chiffre d'affaires, de leurs revenus auprès d'activités commerciales. » Donc, par exemple, un OBNL de réinsertion sociale qui a une vente de vêtements pour permettre justement à des gens d'avoir des emplois, bien, on parle d'économie sociale parce que oui, il y a des subventions, oui, il y a des revenus qui proviennent de donateurs, mais probablement qu'une majorité des revenus proviennent de la vente de vêtements réutilisés. Et là, on parle d'économie sociale. Quand on parle de communautaire, là, à partir de là, il y a justement une jonction, un peu comme un diagramme de Venn. On a une jonction entre les deux, mais tout le mouvement communautaire n'est pas forcément de l'économie sociale et l'économie sociale n'est pas forcément tout à fait le communautaire.
Oui, ça pourrait être une grande discussion dans la distinction de tous ces modèles-là.
C'est pour ça qu'on fait un doctorat.
Oui, exact. Ben, on sera heureux de vous entendre peut-être éventuellement sur les conclusions de ce doctorat. Jason, on fait une courte pause et on revient pour poursuivre notre entretien.
Oui, merci.
De retour au Héros Anonymes, nous sommes avec un bénévole catégorie platine, plus de 10 000 heures de bénévolat à son actif. C'est ce que fait avec cœur Jason Rivet depuis toutes ces années. Et là, on était dans la discussion un petit peu sur les différents modèles. Et moi, il y a une question qui me taraude, là, qui m'anime depuis que j'anime cette émission. C'est de quelle manière les organismes sans but lucratif pourraient profiter de la vision du monde des affaires pour peut-être optimiser et comment parfois on a l'impression que ils sont peut-être chatouilleux à entendre ces mots-là, comme si forcément on entre dans une discussion capitaliste, alors qu'il y a peut-être des gains de productivité qui feraient en sorte qu'il resterait plus de sous pour accomplir la mission pour laquelle on est né.
Oui, bien en fait, c'est un élément qui est vraiment central pour moi dans ma vision. C'est justement d'amener un petit peu de ces connaissances en affaires-là dans du bénévolat, soit dans le communautaire, dans l'économie sociale, etc. Et en fait, souvent, quand on parle de coopérative, de croissance, on ne parle pas forcément de croissance, on parle de changement d'échelle. Parce que justement, ben, le but, c'est pas forcément de grandir pour grandir comme dans une société capitaliste où on veut simplement donner plus d'argent aux patrons et aux actionnaires. On veut changer notre échelle en termes d'impact pour nos membres et de la communauté.
Et en fait, justement,
c'est les territoires innovants en économie sociale qui ont fait une très belle analyse de ça. Et justement, ben, souvent, c'est que les gens ne voient pas le bénéfice au final de regrouper des organisations. Des fois, on est voisins, on fait chacun nos petites choses en notre côté, mais si on travaillait ensemble, peut-être même des fois jusqu'à la fusion, on pourrait justement avoir un petit peu moins de pression sur les salaires, sur les employés, parce que, ben, par exemple, au lieu d'avoir deux directions générales, on peut en avoir seulement une. On peut faire en sorte qu'il y ait des meilleurs salaires, faire en sorte justement qu'il y ait un meilleur accompagnement, même des bénévoles, de dire, bon, mais ben, au lieu de payer deux directions, mais je pourrais avoir une direction et une direction bénévolat.
Donc, Jason, c'est de vous entendre, c'est vraiment... ça me touche beaucoup parce que j'ai eu j'étais dans ce dilemme-là à 24 ans. J'étais directrice générale d'un organisme et ma recommandation au conseil d'administration a été d'abolir mon poste et de fusionner avec un autre OSBL. Et ils m'ont dit, ben, viens-tu vraiment nous recommander d'abolir ton poste? J'ai dit oui, parce qu'on pourrait justement fusionner avec un organisme, un peu tout ce que vous dites. Et ça me semblait nécessaire comme réflexion. Bien que moi, ça m'ait coûté mon poste, mais pour le bien de l'organisme que je desservais, oui, c'était la solution.
En fait, c'est la présidente du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, Nadine Groux, qui est impliquée au mouvement Desjardins et dans justement le mouvement agricole, qui m'a déjà dit « Quand on fait des réformes comme celle-là, on scie la branche sur laquelle on est assis. » Et donc là, à partir de là, je trouve que c'est une belle image parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'on va retomber sur nos pieds ou pas. Mais en même temps, mais quand on est bénévole, quand on a vraiment à cœur le bien commun, bien, c'est des conversations qu'on devrait avoir et qui sont parfois difficiles aussi parce qu'on est dans des habitudes. Des fois, les OBNL, les organismes, les coops ont 30, 40, 50 ans. On ne veut pas non plus sacrifier une histoire. On ne veut pas sacrifier une connexion avec la communauté. Mais en même temps, ben aussi, c'est un challenge en termes gouvernemental des fois, parce que souvent, les OBNL reçoivent des subventions, mais quand ils fusionnent, ils ne reçoivent pas plus d'argent parce que justement, ils fusionnent ou ils améliorent leur gouvernance. En fait, on va leur dire, ah ben vu que vous êtes juste un organisme, ben nous, on plafonne, par exemple, à 200 000 $ le plafond pour chaque organisme. Ah, mais c'est parce que là, avant, on avait 400 000. Là, on en a juste 200 000. On pourrait avoir des gains, mais ça ne vaut pas la peine. Donc, des fois aussi, c'est la manière dont on finance les organisations qui vont aussi impacter la manière dont on les administre puis comment on garde quand même certains organismes, des fois un petit peu brinque-ballant de manière individuelle plutôt que de les fusionner ou de les rassembler qui pourraient être des meilleures avenues pour l'avenir.
Bien, c'est une réflexion que je me fais parce qu'on a reçu de nombreux héros anonymes et c'est merveilleux de voir des gens de cœur vouloir créer quelque chose. Je pense qu'on a l'élan de vouloir faire une différence. Puis je ne sais pas si on prend toujours le temps de regarder ce qui existe déjà, comment on pourrait contribuer à ce qui existe déjà au lieu de lancer quelque chose de nouveau.
En fait, ça, c'est la vision. Il y a une vision entrepreneuriale, mais il y a aussi la vision intrapreneurial. Oui. Donc, de dire on entreprend dans des organisations qui existent déjà. Mm-hmm. Et moi, en fait, dans mon bénévolat, j'ai beaucoup amené ça. De dire, ben moi, oui, j'ai fondé une coopérative, mais j'ai beaucoup...
De consultant en histoire, c'est
exact,
ça?
Exact. Hein? Et malheureusement, une organisation qui a vécu la COVID et qui s'est effondrée malheureusement. Mm. Mais... moi, j'ai beaucoup fait de bénévolat dans des organisations qui avaient des 30, 40, 50 ans. Tu te dis, bon, mais comment je peux amener quelque chose, moi, un jeune de 20, 25, 30 ans dans ces organisations-là? Il y a toujours quelque chose parce que la société change, les besoins des membres et de la communauté changent et donc on peut amener une vision en tant que bénévole, justement plus intrapreneuriale, de dire, bon, est-ce qu'on peut amener un nouveau service? Est-ce qu'on peut amener justement une réforme sur tel ou tel aspect? Donc, pour moi, c'est très important de dire, bien, on peut entreprendre, on peut créer des nouvelles choses. Des fois, c'est nécessaire, mais de l'autre côté, bien, effectivement, bien, quand on a un sens entrepreneurial, bien, on peut aussi le faire dans des organisations déjà existantes et on peut le faire en intraprenant dans des organisations.
Est-ce qu'il y a en ce moment une réflexion du côté des subventions gouvernementales par rapport à ça ou un chantier de réflexion qui amènerait un petit peu de nécessaires remises en question?
Bien, on voit beaucoup ces mouvements-là en termes de transition pour les entreprises capitalistes parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont rendus à l'âge de la retraite. Et donc là, on parle de reprenariat, bon, bien, on va reprendre les entreprises qui existent. Puis, bien, aussi, bien, par exemple, le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec parle d'intrapreneuriat de plus en plus aussi. Parce que oui, on entreprend, mais on peut aussi intraprendre. Et là, bien, c'est important aussi, justement, de parler de ces avenues-là aux jeunes et aux moins jeunes, de dire, bien, c'est pas forcément une nouvelle chose qu'on peut démarrer, mais on peut justement, bien, démarrer une sorte de greffon de la plante principale aussi.
Mm-hmm. Moi, je serais très curieuse d'entendre un peu l'issue de votre doctorat sur ce sujet-là. Est-ce que vous comptez justement observer un peu ces différents modèles-là?
Ben, en fait, moi, mon doctorat va porter justement sur l'impact de la gouvernance des coopératives sur la circularité. Donc, comment on met en place des pratiques d'économie circulaire dans les coopératives. Donc, c'est moins relié au bénévolat, mais c'est sûr que ça reste un enjeu très intéressant à voir parce que justement, dans cette gouvernance des coopératives, il y a des bénévoles.
Oui.
Et donc, qu'est-ce qui influence notre transition écologique? Est-ce que justement, c'est plus les employés qui voient un gain économique à faire de l'économie circulaire, de dire, bon, mais on générait un déchet, on peut le revaloriser, donc on va créer justement une valeur économique supplémentaire? Ou encore, c'est les bénévoles, les membres qui disent, ah, mais on pourrait justement avoir ce gain-là plutôt pour des valeurs écologiques, etc. Donc, ça va être des débouchés très intéressants à regarder dans mon doctorat.
Et Jason, c'est quoi les avantages d'être bénévole? Parce que là, je veux lancer un appel à nos auditeurs là, qui sont peut-être assis dans leur divan, peut-être vous vous ennuyez un peu, vous cherchez, peut-être à la retraite, vous cherchez des défis. Alors, écoutez ce que Jason a à nous dire, là. Quels sont les avantages pour la société, mais aussi pour soi?
Ben, en fait, moi, il n'y a aucun emploi que j'ai eu depuis des années qui n'a pas été un débouché qui a été produit par mon bénévolat.
On vous a vu donc, aller, on a vu votre dynamisme.
Exactement. Donc, j'ai été impliqué dans certaines instances, dans certains milieux, etc. On m'a dit, ah, mais tu sais, on aime ton dynamisme. Mm-hmm. Est-ce que tu voudrais venir travailler avec nous, etc. J'ai gagné, justement, vous l'avez mentionné, des distinctions qui m'ont mis de l'avant dans certains milieux. Donc, ils m'ont approché par la suite. Et donc, ça a été une grande avantage pour moi de faire du bénévolat en ces termes-là. On le fait pas pour ça, mais c'est un bel avantage qui en découle. Puis pour les gens, mais moi, je le dis, quand on parle justement de personnes âgées, on parle de solitude qui serait le mal du 21e siècle. Bien, le bénévolat, ça brise la solitude. Ça nous permet de créer des liens, ça nous permet de créer des relations. Moi, tous mes grands amis proviennent de mon bénévolat. Donc, pour moi, c'est très important, le bénévolat, pour l'individu autant que pour la communauté.
Si on a envie de suivre vos réflexions, vos travaux, Jason, comment on peut entrer en contact avec vous?
On peut me suivre sur ma page Facebook. J'ai une page professionnelle, donc Jason Rivet, que vous pouvez suivre. J'ai aussi une page LinkedIn que vous pouvez suivre également. Et j'ai créé un balado pendant ma COVID, donc un petit projet bénévole. Le balado de Jason Rivet, donc où j'interviewais des jeunes qui sont impliqués dans leur milieu, qui faisaient la différence.
On écoutera ça avec plaisir. Merci beaucoup à Jason Merci. Rivet d'avoir été à l'antenne avec nous. Merci. À bientôt. Au revoir.
Merci.
Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
Bienvenue aux Héros Anonymes. C'est un grand plaisir chaque semaine de vous présenter des gens qui font la différence pour maintenir le filet social en place. Or, on a souvent l'impression que ces gens extraordinaires sont absolument des gens qui sont issus du milieu communautaire. Et cette semaine, on avait envie de vous présenter un exemple que ça peut être une entreprise privée là, qui fait la différence au quotidien pour des gens plus marginalisés. Donc, on aura le plaisir de recevoir la fondatrice et doyenne de la maison Lise, chez Lise Bissonnette, qu'elle a fondée il y a 45 ans, près de 45 ans. Aujourd'hui, revendue à une infirmière et une comptable. Et on la reçoit aujourd'hui avec Julie Saint-Jean, qui est éducatrice spécialisée chez Lise. Donc, ce qu'on veut tout simplement transmettre, c'est qu'avoir le cœur à la bonne place, ça n'a rien à voir avec notre modèle d'affaires. Donc, je vous présente ces dames qui sont le cœur de chez Lise. Et tout d'abord, qui est Lise? C'est Lise Bissonnette. Bonjour, Lise.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là, vous qui avez 45 ans, vous vous êtes dit faut faire les choses différemment?
Oui, bien, je louais à ce moment-là des chambres pour des travailleurs et des gens, des travailleurs saisonniers, des gens aptes au travail. Puis, me rendant compte qu'il y avait des gens en difficulté, j'ai acheté un tourist room que j'ai converti en chambre et pension spécialement pour les gens, surtout en psychiatrie et les gens de la rue.
Mmh. C'est à l'époque vraiment où on parlait beaucoup de désinstitutionnalisation. Il y a des gens qui étaient dans des institutions et qui se sont ramassés à la rue.
Exactement.
Donc, ça a commencé dans un modèle traditionnel là, de maison de chambre.
Oui.
Mais c'est comment vous avez financé ce virement-là?
Bien, j'ai toujours gardé les maisons qui étaient rentables. Et puis, quand j'ai acheté le tourist room, là, j'ai converti ça en chambre et pension avec une cuisine centrale où les gens pouvaient venir manger. Puis c'est en me rendant compte aussi dans les chambres qu'il y avait des gens qui recevaient leur chèque d'aide sociale, des gens aptes au travail, puis qui, le 3 du mois, 5 du mois, n'avaient plus rien. Puis je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Puis là, il arrivait des gens qui ne savaient pas faire à manger. Ce qui m'a attiré mon attention, c'est un monsieur que je vais nommer Gérard, qui se promenait dans les rues avec les doigts dans les oreilles, puis qui criait, puis que je me suis approchée de lui. Et puis, au fur et à mesure que je pouvais m'approcher de lui, un jour, j'ai réussi à répéter des phrases qu'il disait. Et lui, il a eu peur de moi, puis moi, j'ai eu peur de lui. Et puis aussi...
Ça a donné quoi, cette rencontre-là?
Ça m'a donné que là, il fallait absolument que j'accueille les gens de la rue. Moi, j'étais croyante. Je suis encore croyante. Et puis l'Évangile me parlait beaucoup. Il me disait, le moindre verre d'eau que tu donnes à un des miens, c'est à moi que tu le donnes. Et ça, ça a pris de la place dans mon esprit, dans ma pensée. Et là, j'ai choisi, vraiment, là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis, je croyais que ça me prenait un héritage ou quelque chose...
Une entrée d'argent
pour pouvoir faire ça. Mais le contraire, c'était un feu qui m'a emmené à le faire.
Ah, racontez-nous.
Oui. Bien, il y avait un bar-salon pas loin. Puis un gars qui faisait le... Il a mis le feu... Quand j'ai mis le feu dans une de mes maisons, c'était le 17e feu qu'il faisait.
Ah, un récidiviste, là, un pyromane.
Puis suite à ça, bien, j'ai accueilli plein de gens chez nous, plein de gens qui habitaient cette maison-là dans ma maison privée, d'où j'habitais. Et puis à partir de là, bien, j'ai dit, qu'est-ce que j'attends, moi, pour faire ça? Pourquoi je le fais pas maintenant?
Ouais.
J'ai dit, là, j'accueille des gens qui sont aptes au travail, qui seraient bien mieux dans une chambre, qui seraient bien mieux dans... Puis là, c'est là que j'ai commencé à transférer, et puis ça a été rapide. Donc, il y avait tellement de besoins. Puis, c'est comme ça que j'ai débuté. Puis, pour venir à bout de que ça soit rentable aussi...
Oui, parce que
quand
c'est
les gens
n'arrivaient
pas d'argent, parce qu'il y a des gens qui étaient dans la rue dans ce temps-là, tu ne pouvais pas avoir un chèque d'aide sociale. C'était impossible. Alors, il fallait que je les accueille. Des fois, il n'y avait même pas de carte d'assurance maladie ni d'assurance sociale. Rien. Il était comme un animal dans la rue. Là. Puis là, j'ai commencé à faire des démarches pour tout avoir ça, mais des fois, ça prenait jusqu'à 3 mois. Il y en a que... Fait que je les faisais coucher 2 dans la même chambre en espérant qu'un des deux puisse payer.
Oui.
Et puis, ça arrivait. Il y en a qui partaient sans payer, même après 3 mois. Ils recevaient leur chèque à leur nom. Ils étaient tellement fiers. Puis ils disaient, oh non, ça fait tellement longtemps que j'ai pas d'argent. Je m'excuse, mais je m'en vais.
Puis on parle qu'il y a des gens qui recevaient leur argent et qui étaient pris dans des situations de toxicomanie aussi. Là, il y en a eu beaucoup.
Oui, dans ce temps-là, il y en avait, mais ce n'était pas la même toxicomanie. C'était surtout l'alcool puis la colle au début. Puis tranquillement, bien, la toxicomanie a pris de plus en plus de place.
Oui. Comment les gens réussissent là, à tout de même... fournir les revenus pour que vous puissiez rouler cet endroit-là?
Mais comme je vous dis, des fois, les revenus venaient de mes autres maisons. C'est sûr qu'il y a eu des années que si je calculais juste les maisons ou ces chambres et pensions, parce que c'est comme ces 4 propriétés ensemble.
Oui.
Et puis, il y a des années que si je n'avais pas eu les autres maisons pour payer ou de faire coucher 2 personnes dans la même chambre, bien, j'aurais pas été capable de survivre, même pour eux.
Mais je comprends que pour vous, j'imagine, peut-être justement avec votre foi, c'est pas tant d'accumuler les avoirs, mais c'est plus de réinvestir pour faire le bien.
Oui, c'était ça.
Il vous est jamais venu l'idée de dire ben, « je vais convertir ça en organisme communautaire, je vais aller chercher des subventions pour
opérer. » J'ai fait des démarches. Fait des démarches. Et puis, les premières démarches que j'ai faites, il aurait fallu que j'accepte seulement qu'une catégorie de gens. Mais alors, c'est pas seulement qu'une catégorie de gens qui est mal pris.
Mm-hmm.
Il y a la maladie mentale, il y a l'alcoolisme, il y en a aussi avec deux, trois...
toxicomanie.
Ouais, deux, trois. Il y a la maladie, plus la toxicomanie, plus l'handicap, plus... Alors, il y en a qui sont arrivés parce qu'ils étaient dans la rue handicapés, là.
Donc, vous sentiez que dans les demandes de subventions, on vous demandait d'une certaine manière d'être précis, d'occuper une case.
Oui.
Puis vous ne vouliez pas être pris dans cette case-là.
Non, c'est ça.
C'est ça qui fait la beauté de chez Lee, c'est l'ouverture qu'on a. Tu sais, les gens sont libres de pouvoir être aussi colorés qu'ils veulent être. Puis nous, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on met des filets de sécurité autour d'eux pour les protéger. C'est des amener dans la bonne direction, mais on les prive pas d'être ce qu'ils veulent être.
Mm-hmm.
On va les guider, mais sinon, ils peuvent être colorés comme qu'ils veulent.
Julie Saint-Jean, vous êtes éducatrice spécialisée à chez Lee. Ça fait longtemps que vous
J'ai commencé en janvier 2023.
2023?
Oui. C'était honnêtement la première fois que j'ai appelé pour justement parler avec... avec une des patronnes, je suis vraiment tombée en amour avec son énergie. Mm. Quand j'ai été là, moi, j'ai trouvé ça totalement fabuleux là, comme endroit. Là. De voir toutes ces personnes-là, de se donner comme défi, d'apprendre à les connaître et tout, pour moi, c'était juste magnifique. Puis après un an et demi, c'est toujours aussi magnifique pour moi. Là.
Qu'est-ce qui est magnifique, Julie, dans ce que vous nous racontez?
C'est de connaître leurs histoires, de savoir d'où c'est qu'ils viennent. T'sais, c'est des gens, tu sais, qu'il y en a qui ont eu beaucoup d'éducation. T'sais, on a un avocat, Madame Lise, à l'époque, elle avait un chirurgien esthétique. Fait que c'est de voir que la maladie est à la portée de tout le monde. Là.
Ouais, malheureusement, on ne sait jamais.
C'est ça, là, tu sais.
Que ce soit la maladie ou un coup de mauvais sort ou tout à
c'est
coup
ça.
On perd tout.
Puis il y a certaines maladies comme la schizophrénie, ça peut commencer à 18 ans, ça peut commencer à 30 ans. On a un locataire qui est arrivé récemment, lui il me dit que c'est à partir de 50 ans qu'il a commencé à avoir symptômes là.
Entendre des voix, puis...
C'est ça, fait que c'est de voir, c'est d'apprendre à les connaître, puis quand on est capable, justement, d'établir ce lien de confiance-là, de comprendre un petit peu plus la maladie, tu discuter avec, tu sais, c'est quoi que tu entends? C'est quoi, tu sais, les voix, c'est quoi qu'ils disent, tu sais, comment tu te sens dans ce temps-là, tu sais, pour mieux comprendre, justement, la personne, pour être en mesure de l'aider. Puis avec le lien de confiance, on est capable de dire, des fois, la personne vient nous voir, puis là, elle est en crise, il y a telle situation, dire... Est-ce que tu penses que ça serait tes voix qui feraient ça? Puis ils te regardent, c'est comme, tu penses? Ben ça va, tu sais, quand tu me dis, tu sais, je vois beaucoup d'anxiété ces temps-ci, je vois qu'il y a des choses qui pourraient faire que tes voix, justement, te parlent. Ah oui, c'est vrai, ça fait du sens, tu sais, Julie, OK, c'est beau. Tu sais, on prend, tu sais, comme, OK, on va relaxer. Fait que, tu sais, qui nous permettent de justement être capables de verbaliser eux autres, avec eux autres au niveau de leur maladie, bien, il faut établir ce lien de confiance-là. Puis, tu sais, d'écouter leurs histoires, puis, tu sais, d'avoir du plaisir avec eux autres. Moi, l'été, je suis toujours dehors avec eux autres. Ça me sert à rien d'être dans mon bureau, là. Moi, je suis assis dehors, tu sais, on fait des blagues, on parle de choses et d'autres. Quand il arrive une situation, je suis toujours partie aussi d'un côté puis l'autre, là. Fait que...
Puis dites-moi, Julie, pour nos auditeurs qui pourraient craindre la schizophrénie, parce qu'on ne connaît pas nécessairement ça, certains peuvent se dire, est-ce qu'ils sont dangereux pour nous?
Pas tant. Moi, j'ai jamais eu aucune crainte par rapport à eux autres. C'est sûr et certain que s'il y a quelqu'un qui a un tempérament colérique, tu restes pas à côté de lui quand ça va pas bien, là. Mais tu sais, quelqu'un, justement, qui a un bon suivi médical, qui prend bien ses médicaments, ses injections, quelqu'un qui a un bon filet de sécurité autour de lui, c'est sûr et certain que, tu sais, oui, les épisodes peuvent paraître assez impressionnantes, mais... Il n'y a pas de danger. En tout cas, moi, je n'ai jamais senti aucun danger chez Lise.
Hmm. Vous, de votre côté, Lise, comment vous avez vécu ça?
Bien, j'ai vécu ça, moi non plus, j'en avais pas peur, mais on ressent, quand il y a quelque chose de dangereux, on le ressent d'avance. On sent qu'ils sont pas, comme on le ressent chez quelqu'un qui est parfaitement bien, mais qui est en colère. Alors, il s'agit de s'éloigner un peu, puis faire venir la police si c'est nécessaire, mais ça arrive pas tout d'un coup, là.
J'imagine qu'au fil du temps, vous avez noué des relations aussi avec le milieu psychosocial. Je pense l'hôpital Charlemagne avec qui vous êtes...
Charlemagne, Pierre Boucher. Maintenant, on a une réalité chez Lise qui est une clientèle qui est vieillissante. Fait qu'on a beaucoup de locataires, tu sais, 60 ans et plus et tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment une différence de service. Là, nous, notre côté, il faut qu'on doit s'adapter. Mais je pense que chez Lise, présentement, c'est ça qui fait sa force. Tout le tourbillon qui va autour, tu sais, au niveau de Charlemagne, les équipes CIM, les équipes SRA, CIV, les chers acronymes du Québec, tu sais, proximité, Macadam, tu sais, c'est vraiment les policiers réseau. C'est tout cette équipe-là qui fait que nous, de notre côté, ça nous permet d'avoir des clientèles cas extrêmes. Parce qu'on sait que si moindrement quelque chose se passe, bien, on appelle l'équipe, ils viennent faire, les psychiatres viennent même chez Lise maintenant. Ils vont faire des rencontres directement avec leurs patients, les injections vont se faire. T'sais. Ça fait que nous, de notre côté, ça nous sécurise parce qu'on sait qu'on a du soutien. Puis les locataires, bien, eux autres, de leur côté, bien, ils ont le plaisir d'être aussi colorés qu'ils veulent avec tout le soutien directement à domicile, là.
Quand vous dites, ça fait plusieurs fois que vous dites aussi colorés qu'ils veulent, est-ce que, puis on parlait tout à l'heure des modèles d'affaires, des modèles communautaires, je comprends que peut-être dans certains organismes communautaires, peut-être il y a des règles plus, ou en milieu institutionnel, des règles plus précises au niveau du comportement?
Oui, il y a des règles comme l'histoire de se coucher à telle heure, se lever à telle heure. Moi, les gens, moi, j'ai libéré des lits d'hôpital à cause de ça, parce que des gens instruits, des gens qui ont travaillé, qui ont été professeurs à l'université, allaient se coucher à 9 heures le soir, là, ça faisait pas leur affaire. Puis, il y a eu une thèse décrite sur chez nous il y a quelques années, plusieurs années, une travailleuse sociale qui venait, et puis qu'elle a prouvé que la liberté diminuait beaucoup, beaucoup l'hospitalisation.
Wow! Le fait de se sentir un maître un peu de son destin, de pouvoir fixer un peu plus nos règles de vie, de comportement et de routine.
On n'a pas de couvre-feu, on n'a pas... Les gens sont libres de consommer dans leur chambre. Fait que, tu veux pas, c'est comme avoir son propre appartement. T'sais. Quand on habite chez soi, le propriétaire vient pas nous dire, ben, OK, là, il est temps d'aller te coucher, dis à tes amis de s'en aller, puis des choses comme ça. Fait que c'est vraiment comme s'il y avait leur propre appartement. La seule différence, c'est qu'ils ont 3 repas par jour parce qu'ils sont vraiment bien nourris. Là. Ouais. Ça, sérieux, là, c'est très bon chez Lise.
Quand j'ai commencé à accueillir ces gens-là, il y en a qui avaient très peu de vocabulaire parce qu'ils avaient passé beaucoup, beaucoup d'années dans les hôpitaux. Ils étaient rendus dans la rue. Et puis, moi, j'ai fait installer des télévisions partout. Puis aussi d'avoir un contact avec d'autres personnes et non pas être juste réduit à eux-mêmes. Ça aide beaucoup, beaucoup.
Vous avez remarqué que le vocabulaire s'est amélioré?
Oui, le vocabulaire s'est amélioré. Puis le fait de prendre des repas ensemble, des fois, j'ai entendu parler des gens qui n'auraient jamais dit leur histoire, mais en entendant une histoire de quelqu'un d'autre qui est moins gêné puis qui se raconte à haute voix, je pensais que j'étais toute seule qui avait vécu ça. Et ça aide beaucoup, beaucoup.
Lise et Julie, on prend une courte pause et on poursuit notre entretien tout de suite.
We'll be right back.
De retour au Héros Anonymes, Chantal Doré avec vous. Quel grand plaisir de recevoir Lise Bissonnette, fondatrice et doyenne de chez Lise, avec Julie Saint-Jean, éducatrice spécialisée. Et tout juste avant la pause, on disait que c'est bon chez Lise, oui, que la nourriture
énormément.
Est bonne. Oui. Elle vient d'où, cette nourriture-là?
Nous, on les nourrit surtout grâce à Moisson Rive-Sud. C'est vraiment ça qui nous permet de pouvoir fournir 3 repas par jour avec le gros brunch du dimanche. C'est sûr que on en nourrit 78 résidents par jour.
78? 3 repas par jour.
Déjeuner, dîner, souper. Tous les repas à part le déjeuner, c'est toujours gros bar à salade, la soupe, le repas chaud, le dessert. On le sait très bien, avec le coût de la vie, ça coûte cher.
Oui. Et donc, la nourriture est fournie par Moisson Montréal.
Moisson-Rive-Sud.
Moisson-Rive-Sud, désolée. Oui. Ben oui, on est à Longueuil.
Oui.
Malheureusement, c'est partout à la grandeur du Québec maintenant. Donc, la nourriture est fournie. Et qui la cuisine?
On a une belle équipe au niveau de la cuisine. On a 3 chefs cuisiniers, je ne me trompe pas, 4 plongeurs. Fait que c'est vraiment...
Employés?
Oui, on est une belle équipe. On est à peu près 14 chez Lise. Entre la cuisine, on a 2 fabuleuses femmes de ménage qui s'occupent de nos 4 blocs, qui n'ont pas toujours la tâche facile parce que c'est des gens qui ne sont pas toujours habitués à tenir un environnement propre, fait qu'ils travaillent d'arrache-pied. On a un concierge, on a 2 hommes de maintenance qui s'occupent de rénover en continu les chambres. C'est sûr et certain que la minute qu'il y a quelqu'un qui quitte, la chambre est nettoyée, repeinturée, tout est replacé. Fait que chaque personne arrive chez Lise, revient toujours avec une belle chambre propre. Puis des fois, c'est beaucoup d'entretien là, de faire tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de temps, effort et amour, mais je pense qu'on les aime tellement, nos gens là, chez Lise, qu'on le fait tout avec le cœur sur la main. Là.
C'est vraiment ça paraît en vous parlant. Parce que je lisais un petit peu dans le dossier de presse, il y a des locataires que parfois, dans leurs enjeux de santé mentale, peuvent contribuer à rendre vraiment la chambre dans un état... Je lisais un truc il y a quelques années, quelqu'un qui faisait des trous dans le mur.
Oui,
ça arrive, ça.
Oui.
Ça, c'est fréquent.
Pourquoi? Par violence ou juste...
Des fois, c'est les voix qui entendent. Des fois, moi, j'avais déjà essayé de poser des éventails au plafond. Et puis, ils me les arrachaient parce qu'ils pensaient que les voix venaient de là.
OK.
Oui. Alors, quand ils font des trous dans les murs, c'est souvent à cause de leurs voix, puis ils veulent que ça arrête parce qu'ils se font... Les voix sont souvent négatives.
Oui. Oui, tandis que la petite voix à vous qui vous a dit « faut que je m'occupe de ça », c'est pas le même genre de petite voix,
non,
là.
Non.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a énormément qui a été investi dans les dernières années pour les punaises de lit. Puis, on y arrive, là. On y arrive de plus en plus, là. À chaque fois, on a de moins en moins de chambres. Mais c'est un travail acharné à chaque fois parce qu'on a des gens que c'est des ramasseurs compulsifs qui vont ramasser tout. Fait que c'est toujours, tu sais, de l'éducation, travailler avec eux autres, faire des visites de chambre, c'est du travail, tu sais, en équipe, tu sais, avec tout le monde, les femmes de ménage, OK, parfois on a une problématique là. Fait qu'on travaille d'arrache-pied pour justement avoir un environnement qui est sanitaire pour tout le monde, là.
Mais... Et on parlait qu'il y a déjà eu un incendie qui était un petit peu... un déclencheur chez vous, Lise, mais là, vous dites que les gens peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils peuvent fumer aussi dans...
Oui, peuvent fumer dans les chambres.
Parce que vous parliez d'appartement, puis moi, je sais que où je vis, puis à chaque bail que j'ai eu à signer, on n'avait pas le droit de fumer
nous, ils peuvent. Okay.
Donc, j'imagine que vos assurances, ça ne doit pas être évident, le coût des assurances.
Sont coûteuses.
Okay. Mais il y a aussi... Comme d'autres choses, hein, tout s'est amélioré. Alors, là, les systèmes, surtout le plus gros bloc qu'on a, là, le système, là, il est vraiment touché. Là. S'il y a un feu quelque part dans une chambre, tout le monde le sait. Fait que, éventuellement, probablement que toutes les maisons vont être comme ça.
Et dites-moi, Alice, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé là, de vendre ce projet, parce que là, vous avez une relève. Julie, vous travaillez avec la relève en place. Fait que racontez-nous qu'est-ce qui a mené à vendre chez Lise.
Bien, quand j'étais dans les 70 ans, tout le monde se demandait comment ça pouvait continuer, la police, les hôpitaux, puis Charlemagne, Pierre Boucher, fallait comment... Puis on venait me solliciter, mais moi, j'avais pas le goût de vendre. Mais à la fin du compte...
Eux se demandaient...
Comment oui. que la suite continuerait, parce que autant qu'on a voulu me détruire au début, on voudrait pas que je meure aujourd'hui.
Racontez-nous, Lise, on voulait vous détruire. C'est quoi? C'est l'acceptabilité sociale? Les gens autour, oui, ça dérangeait?
Oui, les gens autour, même la police, même les pompiers souhaitaient que c'était comme trop de monde en difficulté au même endroit.
Oui, oui. Pas dans ma cour. Hein,
pas dans ma cour, c'est ça.
Pas dans ma cour, là.
Oui, puis aussi,
c'est important,
les gens,
mais on ne veut pas les voir.
On passait à l'autre bord de la rue. Mais on avait peur. Les gens avaient encore plus peur de la maladie mentale que l'est aujourd'hui.
Oui.
Fait que c'est sûr qu'on essayait d'être le plus loin possible de ça, tant qu'en réalité, c'était pas si pire que ça. Là. Une fois qu'ils rentraient, ça a fait, pour beaucoup de monde, ça a fait ça. La première fois qu'ils mettent les pieds dans la maison, après quelques heures, ils se rendent compte que c'est pas si grave que ça.
Ben, c'est sûr qu'en général, ce qu'on connaît pas peut nous rendre craintifs. Oui. C'est en général, mais là, c'est sûr que c'est des symptômes avec lesquels on est moins familier. Puis oui, il y a eu beaucoup d'éducation autour de la santé mentale ces derniers temps. Donc, je comprends qu'au début, vous dérangiez socialement.
Ah oui, même on m'a fait passer, aux nouvelles à un moment donné pour me faire fermer. On me lâchait pas, puis on m'a même envoyé à un moment donné les... je ne suis pas capable de le dire.
La police, les fières à bras.
Ceux qui font fermer, là.
Les huissiers.
Les droits de la personne.
OK.
On m'a envoyé les droits de la personne. J'ai été 2 ans de temps à voir toutes les inspections possibles et impossibles.
Parce qu'on souhaitait
tous les jours,
vous coincer sur une inspection.
On voulait me coincer quelque part. Mais comme je répondais aux lois la plupart du temps avant qu'on me les demande, quand ils arrivaient, bien, ils ne pouvaient pas. Puis les droits de la personne à la fin, bien, ils ont dit, bien, elle s'est arrangée comme une bonne famille. Fait que, ils ont demandé ce que les services sociaux et tout le monde qui était alentour puissent m'aider au lieu de me détruire. C'est ça qui était écrit. Là, maintenant, ça existe.
Puis comment vous avez réussi à rester persévérante dans tout ça, puis à dire, moi, je continue, peu importe?
Moi, je voulais continuer, peu importe.
Ah, Madame Lise, elle est d'un caractère, elle est d'une force, là.
Oui. Ah oui.
C'est titane, là. T'sais, on se met pas dans le chemin de Madame Lise. Quand elle a quelque chose en tête, elle le fait. Moi, j'ai le plaisir de déjeuner avec elle à tous les matins. Mm-hmm. On fait nos petits plans de match. T'sais, quand il y a des choses, elle connaît bien les locataires. Je lui demande souvent conseil. Je pense faire ça. Puis, je m'en passerai pas de Madame Lise, là.
Mais là, c'est ça, à un moment donné, vous vous posiez, vous, des questions sur votre propre avenir aussi, comment...
Oui.
Est-ce que ça devenait un peu... La gestion devenait un peu lourde pour vous?
Je n'avais pas vraiment l'intention de vendre, mais tout le monde me conseillait de vendre, puis je me dis, bien, je suis peut-être pas réaliste. Là, moi, j'aime tellement ce que je fais que je me dis, je suis peut-être pas réaliste dans ce que je vis. Fait que j'écoutais ça. Puis, il y a des organismes qui voulaient venir m'acheter, mais ça, je ne voulais pas parce que, je dis, les gens qui tombent dans les cracks du système, bien, ils vont encore tomber dans les cracks du système. Puis c'est encore pour ça que je ne veux pas devenir un organisme.
Vous voulez
les
pas,
organismes,
pas
c'est des
pas
bonnes
de
choses.
Là, oui, oui.
C'est des bonnes choses. Mm-hmm. Parce que nous autres, on maintenant, ils nous aident au lieu de nous détruire. Là. Et ce que je souhaitais, au fond, ça se fait aujourd'hui.
Wow, c'est merveilleux. Puis là, vous avez donc de la relève. C'est une infirmière
cette infirmière-là, elle venait donner des injections puis rencontrer des gens qui étaient chez nous. Là, on commençait à voir... j'ai connu Sophie. Puis elle m'a raconté à un moment donné que dès sa jeunesse, quand elle était adolescente, elle rêvait à ma place.
Ah oui!
Elle travaillait dans un garage juste à côté de chez
elle. Deux coins de rue voisins.
Ah oui.
Et puis, à un moment donné, j'osais avec quelqu'un, puis je me suis rendue jusqu'à la cour. Puis quand j'ai vu les gens dans la cour, elle dit, moi, j'ai dit, c'est pour ces gens-là que je veux être infirmière.
Puis là, elle exerce cette profession-là. C'est toute une histoire que vous nous racontez là. Si on veut en savoir plus sur ce que vous faites, on peut, je crois, vous procurer des produits de santé, beauté, des produits pharmaceutiques pour vous aider.
Bien, c'est sûr et certain. Au niveau de la nourriture, on est vraiment gâtés, mais souvent, s'il y a des produits de base là, qui vont nous manquer, des Kleenex, du papier de toilette, si on en passe beaucoup, shampoing, désodorisant, parce que nous, c'est un tout inclus. Là. Quand ils arrivent, ils ont vraiment tout fourni. Fait que c'est toujours des choses là, qui sont en grand besoin. Là.
Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un grand plaisir. Et vous voyez, c'est le genre d'entrevue qu'on aime faire aux héros anonymes et on peut le faire grâce à une dynamique équipe. Catherine Bourdoron à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, diffusion technique. Et vous pouvez entendre tous nos épisodes en différé sur les plateformes de balado-diffusion et notre site Internet. Donc, je vous dis au revoir, à la prochaine et à la découverte d'autres gens extraordinaires.